On vous rappelle que c'est ce jeudi 16h qu'on vous propose le face-à-face entre Bruno Marchand et Sam Ahmad. On va parler de transport et de mobilité, on va parler d'économie, on va parler de relations avec les gouvernements, d'itinérance, de sécurité. Et on va essayer d'avoir leur vision, s'il y en a une, de la ville de Québec dans une dizaine ou une quinzaine d'années. On a une bonne nouvelle, Sam Ahmad dévoile sa plateforme demain. Ce qui va faire en sorte que des deux côtés, on va avoir des idées à défendre. Puis, je vous rappelle l'idée de l'exercice du face-à-face de ce jeudi. Nous autres, c'est de travailler le moins possible. C'est-à-dire qu'on veut laisser le temps à Ahmad et Marchand d'échanger entre eux autres le plus possible. Si ça devient une foire, puis qu'en plus, ils se battent pas, là, je vais intervenir pour les inciter à utiliser leurs bras au lieu d'utiliser leurs mots et leurs arguments. Évidemment, on a un show à faire, nous autres. Là. Non, plus sérieusement, tant que c'est civil, puis tant qu'il y en a un qui ne mange pas le micro au profit de l'autre, l'idée, ça va être de les entendre échanger ensemble pendant une heure, donc, ce jeudi, à partir de 16h.
On vient de recevoir un communiqué de la part de la Sûreté du Québec. On demande l'aide, la collaboration du public. On veut localiser un témoin en lien avec une collision mortelle impliquant une motocyclette. On s'en est parlé en onde parce que c'est arrivé pendant qu'on était en onde le 16 septembre dernier vers 16h35 sur le boulevard Sainte-Anne, la route 138, près de l'intersection de la rue Dick à Château-Richer. Selon les informations recueillies auprès de témoins, le conducteur de la motocyclette aurait eu une discussion avec le conducteur d'une voiture alors que le feu de circulation était rouge un peu avant la collision. Fait qu'il n'y a pas d'impact entre les deux. On recherche vraiment le propriétaire comme témoin dans cette histoire-là. Donc, ce qu'on recherche comme véhicule, c'est un Alfa Romeo de type berline de couleur foncé. On espère rencontrer cette personne-là pour qu'elle puisse aider les enquêteurs à faire la lumière sur les circonstances qui entourent l'événement.
On penses-tu que ça s'est engueulé à lumière avant l'accident ou ça n'a rien à voir?
Ça n'a peut-être rien à voir. On veut vraiment juste avoir plus d'informations pour comprendre parce que pendant cette collision-là, le motocycliste qui circulait en direction ouest a perdu la maîtrise de son véhicule dans une courbe. Il a heurté le terre-plein central. Il a été éjecté de sa motocyclette. Son décès qui a été constaté carrément sur place. Donc, si vous avez de l'information sur cette personne avec qui il aurait pu y avoir un échange juste avant l'accident, bien, on vous demande de communiquer avec la centrale de l'information criminelle. C'est au 1-800-659-4264. Donc, c'est une demande de la SQ en lien avec cet accident mortel du 16 septembre dernier.
Audrey, dans la circulation?
Quelques problèmes si vous êtes sur la capitale en ce moment. Direction Est, ça se passe surtout entre Henri IV, je vous dirais, et Robert Bourassa. Ouest, ça se passe à la hauteur de Laurentienne. Quelques ralentissements sur Henri IV Sud à partir de Chemin Sainte-Foy jusqu'à l'entrée des ponts. La rive sud, ça va super bien au moment où on se parle. Donc, s'il y a quoi que ce soit d'autre, c'est le 88-971-102 texto.
La semaine passée ou l'autre semaine d'avant, la vie va vite quand on s'amuse, j'étais dans le char avec mes gars, on s'en allait à l'autobus, c'était en matinée, on écoutait le show de Marceau, puis Max Larouche était en train de faire ses nouvelles, puis on parle du suivi concernant l'assassinat de Charlie Kirk. Puis mon grand commence à me poser des questions sur Charlie Kirk, puis les circonstances, puis un moment donné, il me dit « Papa, je pense que j'ai vu le vidéo hier. » Là, j'ai comme eu une absence de réaction parce que dans ma tête, là, ça se met à tourner à vitesse grand V. Ah ouais, t'as vu ça où? Ben, j'étais au terrain de soccer, puis il y avait des plus grands qui regardaient une vidéo, puis ils nous l'ont montré. Puis là, il y a quelqu'un qui s'est fait tirer dans la gorge, puis tout ça. Puis là, wow! OK, bon, mes enfants sont rendus dans la vraie vie, dans la réalité. Ils ont accès à des images que je pensais réussir à filtrer à la maison, mais la réalité finit toujours par s'inviter d'une façon ou d'une autre. Puis à partir de cette discussion-là, puis c'est un drôle d'adon parce que ça tombe la même année où il a fallu que je raconte à mes enfants le 11 septembre 2001. Faudrait vraiment que j'arrête d'écouter les nouvelles à Boulevard hein, le matin dans le char. Puis en même temps, ça, je trouve que ça crée des beaux moments de discussion. Puis quand il y a des questions, bien, c'est le fun aussi d'essayer d'assumer les réponses. Comment on parle de la vraie vie à nos enfants? Nancy Doyon est coach familiale, SOS Nancy, évidemment. Salut, Nancy.
Salut, salut.
Ça va bien?
Oui. Quel intéressant sujet.
C'est pas évident, hein?
Non, ben écoute, tu sais, d'emblée, c'est sûr que c'est une des raisons, moi, pour laquelle je suis pas d'accord que des enfants de 8, 9, 10 ans... Quel âge il a, ton plus vieux?
Ils ont 12 et 10 ans, mes enfants.
OK, c'est ça. Mais tu sais, des jeunes de 8, 9, 10, 11 ans aient accès
à des primaire, trucs... mettons.
Hein? Oui, c'est ça. Tu sais, qu'au primaire, aient accès à des trucs comme Snapchat, TikTok, surtout TikTok. Je suis pas d'accord que les jeunes y aient accès sans supervision, mais même si on met les limites... Les jeunes vont entendre parler dans la cour de récré parce que c'est pas tous les parents qui mettent des limites.
Exact.
Puis là, mais tu sais, dans ton cas, c'est un plus vieux là, tu sais, qui a probablement manqué de jugement puis qui a montré ça à des jeunes. Tu sais, puis je me souviens il y a quelques années là, tu sais, je parlais de la série asiatique là qui était vraiment très
Squid Game.
Tu sais, avec des jeunes qui voyaient Squid Game, qui jouaient à Squid Game. Puis là, mais ça va revenir là, toutes ces affaires-là. Il y a plein de jeux qui sont violents aussi. Fait que tu sais, moi, je peux restreindre les jeux violents chez nous. Mon jeune va aller ailleurs, puis il va être, tu sais...
Exact.
Pas de contrôle ses autres parents.
Fait que, tu sais, oui, on peut contrôler d'une certaine manière. Donc, tu sais, par rapport à la vraie vie dont tu parles, les drames, puis tout ça, je suggère tout le temps que chez les enfants plus jeunes, là, le 0 à 7-8 ans, qu'on essaye de pas trop les exposer à ça. Puis, même, tu sais, dans la voiture, effectivement, on écoute les nouvelles. Ben tu sais, si on sait qu'il est arrivé quelque chose, une catastrophe, une fusillade quelque part, ben peut-être qu'on est mieux d'écouter de la musique en présence de nos enfants.
Bien, il y a comme deux façons de voir ça, puis je trouve tellement pas ça facile, même vis-à-vis mes deux garçons, j'ai tendance à pas avoir la même réaction de un vis-à-vis l'autre, puis c'est pas par rapport à l'âge, c'est plus par rapport au caractère ou à la personnalité, mais est-ce qu'on est mieux d'aborder ces sujets-là avant d'avoir des questions ou on est mieux d'attendre les questions et qu'ils soient exposés sans qu'on le contrôle nécessairement à des événements
sans
comme ceux-là?
Sans surprise, je répondrai « ça dépend ». Je réponds tout le temps.
La vie étant ce qu'elle est, hein, ouais.
Ben, si moi je le sais que mon jeune, il est arrivé quelque chose qui était tellement gros là, puis que je le sais qu'il va m'entendre parler, ben oui, je vais préférer l'aborder le sujet pour ouvrir la porte. Est-ce que tu as entendu parler de qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en penses? Comment tu te sens par rapport à ça?
Donc, essayer de savoir qu'est-ce qu'il connaît déjà,
exact,
plutôt que d'imposer nous autres le rythme des informations.
Tout à fait. Puis, à partir de là, tu sais, ouvrir la porte, est-ce que tu as des questions? Est-ce qu'il y a des choses que tu ne comprends pas? Est-ce que ça génère des peurs, des inquiétudes par rapport? Tu sais, je pense à il y a plusieurs années, quand il y avait eu l'explosion du train, tu sais, les jeunes, c'est sûr.
À la Clégantique,
oui, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que les jeunes allaient l'entendre parler. Mais tu sais, est-ce que ça t'inquiète? Fait que, tu sais, c'est important d'ouvrir la discussion. Mais ouvrir la discussion, c'est ça, non pas pour parler, mais pour écouter. Qu'est-ce que t'en sais? Qu'est-ce que t'en penses? Comment tu vois ça? Est-ce que ça t'inquiète? Tu sais, des fois aussi, ça va être des drames familiaux où on entend parler, tu sais, les petites filles, là...
Lévis, là.
Oui, c'est ça, qui avait été kidnappées. Tous les enfants en ont entendu parler.
Les Carpentiers.
Oui, c'est ça, les Carpentiers, que le papa a assassiné. Ben tu sais, tout le monde en a entendu parler.
Ça finit par se rendre. Hein?
Ben oui.
Mais jusqu'où on...
Faut ouvrir la porte.
Jusqu'où on va, Nancy, dans les détails, justement, ça, c'en est un bon exemple. Là,
ben
tu
oui.
vas parler d'un parent qui assassine ses filles. C'est des sujets qui sont élevés à aborder, puis tu te poses toujours la question, là, faut-tu aller dans le détail? Faut-tu romancer? Faut-tu tourner coin rond? Comment on...
Bien, généralement, les psychologues vont suggérer qu'on réponde aux questions qui nous sont posées sans aller plus loin.
Moi, c'est ce qu'on m'a dit à l'époque sur
exact.
Certains sujets périlleux, de dire si ton enfant ne te pose pas de questions, c'est probablement qu'il n'y en a pas.
Exact. Sauf que, c'est là où j'arrive avec mon « ça dépend », sauf que si mon enfant ne me pose pas de questions, mais que je le sens inquiet, je le sens perturbé, bien peut-être que ça vaut la peine que j'aille un petit peu plus loin et que j'y explique certaines affaires.
C'est mieux mes réponses que les réponses qu'il va avoir du grand qui a montré le vidéo
exact.
Au terrain de soccer, mettons. Là.
Exactement. Ouais. Fait que tu sais, si je sens que mon enfant, puis je le sais, mettons, qui a été exposé à ça, puis je le sens se refermer, bien il va peut-être falloir que je pousse un petit peu pour en discuter. discuter. Maintenant, même si j'en parle, puis même si on a eu la discussion, puis que j'ai répondu aux questions de mon enfant, ça se peut que je tourne les coins ronds, effectivement, à certains endroits. T'sais. Si on parle de l'assassinat de Charlie Kirk, ben, pourquoi il est décédé, etc. Bon, il y a des opinions, puis on n'est pas d'accord avec ça. Bon. Fait que, on parle de tout ça, mais ça ne veut pas dire que je vais laisser mon jeune être exposé à ces images-là. Ton jeune, il l'a vu au terrain de jeu.
Ouais.
Ben, tu peux lui dire, écoute, je trouve ça épouvantable que ces images-là circulent. Je trouve ça triste que tu aies été exposé à ça. Comment tu te sens par rapport à ça? Et ceci dit, si je sens qu'il est moindrement inquiet, ben, je vais pas laisser mon enfant être exposé à ça tout le temps. Fait que, tu sais, je sais pas, moi, il arrive une catastrophe, une fusillade, ben peut-être aussi que c'est une bonne idée qu'une fois qu'on en a parlé, ben on passe pas notre temps à souper en écoutant avec la télé en arrière-plan puis parler de ça tout le temps.
Mm-hmm.
Je trouve ça important d'un point de vue historique que nos enfants soient au courant des événements du 11 septembre. Tu sais, même dès l'âge, c'est ça, de 7-8 ans, je trouve ça important d'en entendre parler. À 7-8 ans, on va juste dire que, bon, il y a des tours qui sont tombés. On n'est pas obligé d'avoir des détails.
Besoin de mettre de contexte,
ben,
mettons, à
cet
âge-là.
Ils connaissent pas trop ce que c'est le terrorisme. Un peu plus tard, ils posent des questions. Mais tu sais, je trouve ça quand même important que nos jeunes sachent un peu dans quel monde ils évoluent. Là.
Oui, mais là, je vais te tester à la heavy metal. Là. Mettons que je suis un enfant de 9-10 ans et que je te pose la question, « Maman, pourquoi un papa assassine ses enfants? »
Et la réponse, c'est « Je ne sais pas. »
Bon, ben tabarnouche, 2 points pour moi.
Je ne sais pas comment quelqu'un peut en arriver là. C'est épouvantable. On va faire attention à ne pas avoir des termes comme « Il était malade. »
Ouais. Ouais.
Parce que pour un enfant, là, un rhume puis problème grave de santé mentale, c'est
sur comme l'échelle de gravité, là.
Ben c'est ça.
On peut pas mêler tout. Là.
Ben non, c'est ça. Fait que là, si je dis, ben le monsieur a assassiné ses enfants parce qu'il était malade dans sa tête, ben la journée où il te voit avec le nez qui coule, ben ça sort de ta tête, cette affaire-là.
Ou une journée que t'es fâché chez vous, pour des raisons niaiseuses.
On va faire attention à ça. Fait qu'on va pas avoir des termes que l'enfant pourrait interpréter autrement.
Hey, on parle tellement de santé mentale aussi. Là.
Ben
on n'a pas le goût que parce qu'un parent ne va pas bien, que l'enfant pense que soudainement, le parent peut être un danger. Là.
Exact. T'sais. Fait que dire, ben, c'est... Puis, un des éléments aussi qui n'est pas facile avec les enfants, c'est qu'ils ne comprennent pas la notion de relativité. Fait que, tu sais, eux autres, là, c'est arrivé une fois dans les 10 dernières années, une situation, par exemple, bon, une fusillade, etc. Ben, eux autres, ils s'imaginent que ça peut arriver tout le temps. Fait que, tu sais, des fois, c'est important de nommer, de dire, ben, c'est quelque chose qui arrive, c'est très, 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 très rare. Tu sais, et tu peux faire confiance. À un moment donné, les enfants se mettent aussi à avoir peur des voleurs, des kidnappeurs, tu sais, être des aidés à relativiser les choses.
Est-ce qu'on les protège trop? Jeff, qui vient de nous texter, il dit « Je me rappelle quand j'étais jeune, j'écoutais plein de films d'horreur très jeune. »
Trop jeune, même. «
Mes parents ne checkaient pas trop et j'ai quand même très bien réussi. » Est-ce que les laisser aller, c'est bon ou c'est mauvais par rapport à l'actualité, par rapport à ce qui est plus graphique des films, puis ainsi de suite?
Encore une fois, ça dépend. Ça dépend de l'âge, ça dépend de l'enfant. Si j'ai un enfant qui est facilement anxieux, je vais peut-être le protéger un petit peu plus. La surprotection, c'est de ne pas permettre à un enfant de 12 ans d'écouter Harry Potter parce qu'il y a des araignées dedans, tu sais, je veux dire, à un moment donné.
C'est peut-être too much, ouais.
C'est ça. Mais en même temps, les films d'horreur qu'on écoutait quand on était jeune, les films d'horreur actuels, c'est beaucoup plus sanglant. Puis, si mon jeune écoute, je sais pas, moi j'ai un enfant de 10 ans, puis écoute, ça y est arrivé d'écouter un film d'horreur 13 ans et plus chez son ami, je vais pas en faire un méga drame, je regarde, mon enfant dort bien, ou peut-être qu'il est un peu plus stressé, mais regarde... Effectivement, je ne vais pas en faire un drame.
Dans le pire des cas, il va se dompter. Là.
Exact. Mais là, tu sais, c'est le temps d'Halloween. Là. Nos jeunes vont vouloir écouter des films un peu épeurants. Il n'y en a pas de problème. La petite série Mercredi, là, les jeunes vont survivre à ça, surtout si on les écoute avec eux autres.
Ben, y a une différence entre écouter, mettons, Stranger Things ou Le Centipède humain. Là.
Ben voilà.
J'avais des cadences en tête, mais oui, Le Centipède humain.
Ben oui, ben oui, c'est ça. T'sais, fait qu'on écoute Stranger Things en famille. Effectivement, il y a des monstres qui font peur, mais tu sais, on est là.
Il y a quand même...
Si mon jeune carbure sans arrêt au film d'horreur, ben là, à un moment donné, il va peut-être falloir mettre un stop. Écoute, j'avais une maman qui permettait à sa fille, reculée il y a plusieurs années, de 4 ans, d'écouter Très mort.
Wow! OK, oui.
Et elle écoutait très mort à tous les jours.
Ça, c'est les gros vers, ça.
Oui, le gros vers qui sortait de la terre.
Oui, on a fait ça avec des gremlins, nous autres. On les appelait les petits singes méchants, puis les enfants
les
gremlins, leur vie.
Les gremlins, je trouve moins pire, très mort.
Gremlins, il y avait de l'humour un peu. Très mort, on avait moins.
Oui, c'est ça, très mort, je vois ça. Mais la petite écoutait ça tous les jours. Je fais, ouais, ben attends un peu. Elle dit, oui, mais elle dit, elle avait, de toute façon, elle l'avait déjà écouté chez son père.
Ça ne fait pas peur.
OK, je comprends, mais on ne va pas la laisser l'écouter à tous les jours.
Ouais.
Fait que, tu sais, à un moment donné, mais je suis d'accord, il ne faut pas se surprotéger. La vraie vie, c'est ça. Les films d'horreur, ça fait partie de la vie. Des affaires qui font peur, ça fait partie de la vie. Puis moi, je suis de celles qui militent pour qu'on dise à nos enfants, c'est-tu quoi, avoir peur, c'est pas grave.
Mm-hmm.
Tu sais, c'est l'Halloween, là, ça sert à ça, d'avoir peur. On va avoir peur, puis c'est correct.
Une distinction peut-être à faire aussi entre ce qu'on peut dire, ça c'est un film avec des acteurs, ça c'est du maquillage, ça c'est un effet spécial. À côté, on a un bulletin de nouvelles où on voit des images de ce qui se passe à Gaza, on voit des images d'assassinats, on voit des images, puis des fois c'est proche. Ouais. Tu sais, dans le temps qu'il y a eu le gars avec le samouraï,
oui.
Puis que tu vois des images du château Frontenac, puis que les enfants sont capables de le situer. Moi, mes enfants sont allés à la garderie en face de la mosquée à Sainte-Foy.
Ben oui.
Fait que quand ils ont fait l'anniversaire de la tuerie de la mosquée, ben ils ont dit « Papa, c'est en face de la garderie, qu'est-ce qui s'est passé? » Puis ainsi de suite. Ça devient beaucoup plus dur. C'est beaucoup plus dur de gérer la réalité et la proximité que ce qu'on va appeler la fiction, le film, puis l'imaginaire.
Pis le grand drame, c'est que nos jeunes sont tellement exposés à des images violentes qu'à un moment donné, la frontière entre la fiction et la réalité devient un peu floue.
On risque d'être désensibilisé dans ce temps-là?
Exact. Il n'y a pas longtemps, je parlais avec un papa qui me disait que il a voulu aborder l'assassinat de Charlie Kirk avec son fils. Puis de 14 ans, je pense, 14-15 ans, qui a dit « Ben oui, papa, allons, regarde, on s'en fout, là, il est aux États-Unis. » Je les ai vus, les images, là, puis, tu sais, oui.
Comme s'il n'y avait pas de gravité qui venait avec
ça. C'est ça, il banalisait. Papa ne savait pas comment réagir, il m'a posé la question. Puis je disais « Ben, tu sais, une bonne discussion avec ton gars, en disant « Hey, attends un peu, là, c'est parce que c'est pas le gars dans Minecraft là, qui est mort, tu sais, je veux dire. »
Mais en même temps,
le 5 que tu as vu, c'est du vrai sang, là, tu sais, c'est une vraie personne, c'est un vrai père avec des vrais enfants. Il a beau être aux États-Unis, je veux dire, c'est un humain pareil.
C'est tough, par exemple, parce que faut gérer ça avec nos enfants, mais d'un autre côté, même nous, adultes, on commence à être désensibilisés par les films, par ce qu'on voit un peu partout. Par
les termes qu'on utilise.
On fait des nouvelles tous les jours, effectivement. Je veux dire, on fait juste ça, parler de mauvaises nouvelles dans le day-to-day. C'est plate à dire, mais on dirait que c'est comme si ça
nage dedans aussi,
oui,
nous autres.
Ça déshumanise un peu sans même que tu le veuilles. Fait que c'est tough après ça d'essayer de garder ce petit côté-là fragile chez ton enfant.
Bien, oui, en fait. Puis je pense que nous, comme adultes, quand il arrive des situations comme ça, puis qu'on constate qu'on est un peu désensibilisé, puis que ça nous passe un peu du pied par-dessus la tête, nous, on a comme une prise de conscience à faire, à prendre un pas de recul, dire, hey, attends un petit peu, là. Je vais prendre le temps de me mettre, tu sais, puis revenons encore à Charlie Kirk, je vais prendre le temps de me mettre dans la peau de sa femme, de ses enfants, puis je vais me permettre de me donner un peu d'espace-temps pour laisser l'émotion me traverser. Et après ça, effectivement, je pourrais prendre du temps avec mes enfants pour les aider à dire « OK, et si on se mettait dans leur peau? » Pour cultiver l'empathie, parce qu'effectivement, le risque est une désensibilisation collective.
Nancy, question piège. Il y a de plus en plus de couples séparés. Ça veut dire qu'il y a de plus en plus de parents qui sont en mode monoparental. T'en as trois dans le char qui entendent la même nouvelle en même temps puis qui posent des questions. T'en as un de 7 ans, t'en as un de 11 ans, t'en as un de 13 ans. Du temps juste avec un, t'en as pas beaucoup. Comment on fait pour gérer ça quand on est une mère monoparentale, par exemple, qui a trois enfants qui n'ont pas le même âge et qui ne sont pas à la même place?
Bien, quand c'est possible, on va repousser à plus tard la discussion. Fait qu'on va dire à nos plus vieux, bien, écoute, il y a des jeunes oreilles dans l'auto, fait que ça ne vous dérange pas, on va en parler plus tard. Parfois, malgré tout, nos jeunes continuent à pousser puis à banaliser. Bien, à ce moment-là, on va l'avoir, la discussion, qu'est-ce que tu veux? Puis là, bien, si le jeune, lui, fait comme, mais c'est quoi? Mais ben, il pose des questions.
Ça arrive jamais, ça, voyons!
Surtout le plus jeune, il va avoir la même conversation que les plus vieux. Ouais. Ben, à ce moment-là, on aura la discussion. Tu sais, moi, j'étais la troisième de la famille chez nous, beaucoup plus jeune que les deux autres, puis il y a eu plein de situations comme ça qui m'ont obligée à maturer plus vite.
Mm-hmm.
Fait que, tu sais, bon, mais garde, on deal avec, qu'est-ce que tu veux?
Quand on voit qu'un enfant est impressionné par une nouvelle, qui en devient obsédé, qui pose plein de questions, comment on fait pour...
Le désamorcer,
peut-être? Le désamorcer, oui, c'est le bon terme, Véro.
Ouais, mais en fait, quand il devient obsédé, il faudrait essayer de voir qu'est-ce qui se passe pour lui.
Mm-hmm.
C'est-tu parce qu'il est inquiet? Et là, on va parler de son inquiétude, puis on va essayer d'extrapoler dans « t'as peur qu'il se passe quoi, t'as peur qu'il arrive quoi, etc. » pour lui permettre de vider son sac. Puis à un moment donné, on met un stop. Là. On fait que « OK, maintenant on arrête d'en parler. »
Quand
là,
ça fait six fois que tu réponds à la même série de questions.
C'est ça. À un moment donné, on fait « Bien, écoute, on passe à autre chose, mon grand. Là. Je t'ai déjà répondu là-dessus.
Okay. »
Si mon jeune est fasciné par une nouvelle macabre,
ouais.
Mais que la fascination me semble...
Exagérée ou trop, là? Ben, à la limite malsaine?
Oui, c'est ça. C'est de l'intérêt qu'il y a, ça le fascine. Puis il faut peut-être s'inquiéter un peu. Il faut peut-être vérifier.
Dire, tu fais quoi à ce moment-là? Hein?
Bien, la première question à se poser, c'est mon jeune, il va-tu bien en général?
Mm-hmm.
Est-ce que j'ai un jeune qui a une fascination générale pour les trucs macabres et violents?
Parce que ça peut arriver?
Oui, ça peut arriver, puis ça peut être un signe de dépression chez nos jeunes.
Ah ouais?
Oui. Ça peut être un indice que ton jeune est en dépression, parce que quand une dépression est assez avancée, il vient un moment donné où, enfant comme adulte, il y a une désensibilisation générale aux émotions, une espèce de coupure émotionnelle.
Mais là, on parle de jeunes de quel âge?
Bien, ça peut être de 7 ans comme 15. Ouais. Là.
Mais là, c'est bizarre ce que je te demandais, Nancy, là, mais un jeune en dépression, il me semble que tu n'as rien à faire sauf aller à l'école puis respirer à cet âge-là.
Ah, ben non, il y a plein de choses à faire.
Non, mais je la pose plein de jugements, mais j'ai l'impression qu'il y en a peut-être une couple dans le champ qui se sont dit, voyons,
des jeunes en dépression, attends, la vie est belle en jeune.
C'est ça, il me semble, c'est quand tu es adulte avec plein de responsabilités qu'à un moment donné, tu te sens enterré.
Là, je vais être sûre de faire bien, tu sais, qu'on nuance. Ça peut être un signe de dépression. Ça ne veut pas automatiquement dire que ton jeune est en dépression. S'il trippe un peu trop, ses affaires macabres. Là, t'sais. Ça se peut que ce soit un intérêt temporaire. Chez
une
certains...
passe gothique.
Oui, sa passe mode, gothique.
Ma nièce a trippé sur Pennywise, je vous confirme que c'était sa passe de film d'horreur.
Ben, c'est
à
ça. Fait que ça se peut. Là. Fait que, si mon enfant va bien en général, puis que c'est un enfant qui généralement a plein vie, mais si j'additionne ça avec il s'enferme, il s'isole, il perd ses amis, il perd de l'intérêt, là, à un moment donné, il faut que je m'inquiète. Et là, bon, ben. Je vais commencer par en parler avec l'école. Dans certains cas, avec certains jeunes, on peut même alléger l'horaire d'école pour que mon jeune puisse se reposer. Si en plus, il ne dort pas bien, on va aller voir le médecin. Ça se peut qu'il ait besoin d'un soutien externe pour dormir la nuit. Ça se peut même qu'on ait besoin de faire un examen pour voir y a-t-il un problème physique. Chez certains jeunes, ça se peut qu'on doive passer par des antidépresseurs. Et ça va prendre aussi un suivi anticorps.
Nancy, je trouve que le sentiment est noble. Il y a un parent qui m'avait déjà dit, moi, les conversations sur la réalité, j'essaie de les retarder le plus possible parce que je veux qu'ils restent des enfants le plus longtemps possible. Puis je sais que ça part d'un bon sentiment, mais en même temps, tu te pièges pas toi-même ou tu condamnes pas ton enfant à ce qu'il se fasse expliquer la réalité justement par n'importe qui autour parce que toi, tu prends pas ta place dans ce genre de discussion-là?
Effectivement, je pense que le risque est énorme que le jeune soit éduqué par d'autres personnes puis tout croche.
Mm-hmm.
Mais ça se peut aussi qu'il ait l'air un peu d'un extraterrestre de ne pas savoir certaines affaires. Fait que c'est pas génial. Puis à quelque part, tu sais, ça n'empêche pas les enfants d'être des enfants. Ce qui est intéressant avec les enfants, c'est que les drames, eux autres, ils vivent pas ça de la même façon que nous autres.
Okay.
Fait que tu sais, souvent, même une séparation, là, tu sais, ils vont réagir, ils vont pleurer, puis 10 minutes après, ils vont aller jouer.
Ouais.
Puis après ça, ils vont revenir, ils vont pleurer. Puis après... Fait que tu sais, ça se vit, ça les empêche pas nécessairement d'être des enfants. Nous autres, on a tendance, quand on vit un traumatisme, par exemple, de mijoter dedans pendant des mois à temps plein. Les enfants, pas tant. Fait que oui, effectivement, tantôt, on parlait de surprotection. Ben, j'en vois des parents tomber dans la surprotection, là. Des parents refuser que leur enfant ne soit exposé à aucune image susceptible d'être un peu violente ou, tu sais, même les Pokémon sont louches, tu sais, c'est comme, à un moment donné, il ne faut pas charrier non plus, là. Tu sais, la vraie vie, c'est ça.
Nancy Doyon, SOS Nancy, merci beaucoup.
Hey, ça m'a fait plaisir.
Une belle discussion, puis plein de pistes de réflexion. Il est 15h53, 88 971 1021. On fait une courte pause, on revient. Gravel.